Haute Ethique par la Pèlerinerie Dominique Philippe, le 29 novembre 2001 à Saint-Judas.
Il y a plusieurs questions. Pourriez-vous préciser la différence entre contemplation et adoration? D'abord, l'adoration relève de la volonté. La contemplation, c'est notre intelligence et notre volonté. L'adoration consiste à reconnaître notre état de créature en face du Créateur, Dieu. C'est cet état de dépendance radicale que nous avons comme créature face au Créateur. C'est donc se mettre dans une situation de vérité pratique, existentielle. La vérité pratique, c'est d'adorer Dieu. Il est notre Créateur. Et cela nous met dans une situation de vérité fondamentale. C'est pour ça que l'adoration conduit à l'abandon. Il faut adorer et faire des actes d'adoration, parce que la vertu de religion, c'est une vertu qui s'acquiert. Et donc, si on est habitué à faire des actes d'adoration, on les fait d'une façon beaucoup plus facile. Il ne faut pas attendre l'état d'angoisse ou de péril pour adorer Dieu. Il faut que l'adoration soit une attitude fondamentale de notre vie. Vous voyez, aujourd'hui, on loue Dieu, c'est très bien, mais on loue aussi beaucoup d'autres personnes. Donc, la louange n'est pas un acte typiquement religieux. Tandis que l'adoration est un acte typiquement religieux. Vous voyez, encore l'épître d'aujourd'hui, hein, le montre bien. L'édit de Darius demandait que tout le monde adore le prince et ne pas vouloir adorer pour qu'on adore que Dieu était de fait considéré comme un sacrilège, comme un manque d'obéissance. Et la foi demandait à Daniel de n'adorer que Dieu. On n'en est pas encore là. Mais vous voyez, on y tend. Puisqu'on ne veut pas considérer Dieu comme une vérité naturelle, l'existence de Dieu. Adorer est un acte humain naturel. Adorer Dieu. On est vrai qu'en adorant Dieu. Et l'adoration doit aller toujours plus loin. Puisque la conscience de notre dépendance à l'égard de Dieu se fait toujours plus grande. Si on ne fait pas d'acte d'adoration, ça s'acquiert, hein, voyez. Il ne faut pas attendre la grâce en disant « Non, on a toujours le pouvoir d'adorer. » On a toujours le pouvoir, c'est un acte naturel. ça c'est très important, c'est la rectification radicale par rapport à nous, l'adoration. On se rectifie en adorant. Tant qu'on n'a pas adoré, on n'est pas rectifié. L'attitude, le garde à vous en face de Dieu, oui, c'est être vraiment, être vrai. La vérité pratique s'acquiert par l'adoration. Et tant qu'on n'adore pas, on n'a pas de vérité pratique. La contemplation est au contraire un sommet. La contemplation naturelle de Dieu est un sommet qui se fait à partir de l'adoration. C'est vrai, l'adoration nous rectifie à l'égard de Dieu. Donc il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de contemplation sans adoration. C'est la condition sine qua non pour la contemplation. C'est ça qui nous purifie radicalement et qui permet à notre intelligence qui a découvert l'existence de Dieu de le contempler. La contemplation est un acte très pur de notre intelligence. C'est l'effort ultime de notre intelligence. Là aussi, ça s'acquiert. On acquiert la contemplation naturelle de Dieu. Alors, si on a la grâce et qu'on a la contemplation infuse de Dieu, ça nous aide beaucoup pour adorer naturellement, c'est sûr. Comme si on a la grâce, on adore Dieu par la grâce. Mais il est bon d'acquérir le soubassement naturel. Autrement, on risque toujours de dire « Je ne peux adorer Dieu que par la grâce. Je n'ai pas la grâce pour adorer. » C'est faux de dire ça. Vous pouvez naturellement adorer. C'est une question de volonté. Question de volonté. Pour contempler naturellement, c'est plus difficile. Il faut une grande habitude, une grande orientation, une habitude de faire que notre intelligence ait cette soif de regarder Dieu présent et de le contempler. Parce que le contenu objectif de la contemplation à l'égard de Dieu est surtout négatif. Dieu, c'est avant tout celui qui n'est pas composé et qui est simple. C'est celui, ça vous échappe comme contenu. Vous n'avez pas de concept de Dieu. Vous n'avez qu'un jugement d'existence en disant Dieu existe. Le père Garrigou-Lagrange, de temps en temps, même dans ses écrits, parle du concept de Dieu. Il n'y a pas de concept de Dieu. C'est faux. Et on l'a dit dans certaines perspectives ontologiques de l'ontologisme. Donc la contemplation naturelle de Dieu, elle est rare. Il faut appeler les choses par leur nom. Elle est rare. Ça présuppose déjà une habitude de découvrir l'existence naturelle de Dieu. Découvrir l'existence naturellement de Dieu, de son existence, et à ce moment-là, de se fixer autant qu'on le peut à sa présence, à son acte créateur. Et là, de découvrir ce qu'il est. Mon Père, est-ce juste de parler d'une certaine miséricorde de Dieu envers l'homme quand Dieu permet le péché? Miséricorde. Quand Dieu permet le péché, ou est-ce qu'un abus du langage pour exprimer l'abandon amoureux de l'homme envers son Créateur? Dieu peut, par miséricorde, non pas accepter le péché. Dieu n'accepte jamais le péché. Mais Dieu peut ne pas punir. Et la miséricorde, c'est que Dieu ne permet pas de punir immédiatement le pécheur. Dieu attend que le pécheur reconnaisse son péché. Mais on ne peut pas dire que Dieu exerce sa miséricorde pour laisser l'homme pécher. Non, Dieu respecte l'homme, la liberté de l'homme. C'est pas la même chose. C'est pas un acte de miséricorde. C'est un acte de miséricorde. Il reconnaît que l'homme est libre. Reconnaître que l'homme est libre, ce n'est pas un acte de miséricorde de Dieu. C'est parce qu'il a créé l'homme libre. Et il le laisse libre, même vis-à-vis de lui. Donc on ne peut pas dire que c'est la miséricorde. La miséricorde, au sens précis, consiste à se servir du mal pour un bien. Alors, que Dieu permette l'homme de pécher par miséricorde, non. Dieu laisse à l'homme la liberté. Et laisser la liberté à l'homme, c'est un acte du respect de Dieu vis-à-vis de nous. Il nous a créés libres, il nous respecte libres. Il veut que nous soyons libres. Alors, la faute étant commise, Dieu, par miséricorde, continue de nous aider, de nous aimer. La permission du péché, ne disons pas que c'est une miséricorde de Dieu. Parce qu'il faudrait dire que Dieu soit complice. Alors Dieu n'est pas complice du péché. Dieu laisse l'homme à lui-même. Ou est-ce un abus du langage pour exprimer l'abandon amoureux de l'homme envers son Créateur? L'abandon amoureux de l'homme envers son Créateur, c'est de respecter le Créateur. Donc, on peut avoir vis-à-vis de Dieu un abandon amoureux en respectant qu'il est le Créateur, donc sans péché. On peut ne pas voir la volonté de Dieu dans des cas particuliers, mais dans le cas habituel, on respecte la volonté de Dieu. On ne peut rien, On ne peut pas nier qu'il y a de la souffrance dans le monde, due notamment aux actions mauvaises de l'homme. Peut-on parler pour autant de force du mal? C'est la question. Philosophiquement, je ne peux pas parler du démon. Donc, je n'ai pas la connaissance directe du démon. Mais alors, ceux qui font des pactes avec le démon ne le font pas par foi. C'est leur intelligence non éclairée, leur intelligence de pécheur, qui consiste à reconnaître les forces du démon. Alors, les forces du mal, en réalité, c'est la puissance du démon. Quand la séduction du mal est trop grande, c'est le démon qui agit pour nous séduire. Donc en réalité, les forces du mal, c'est le démon. Qu'entendez-vous par là? Comment peut-on dire en philosophe qu'il y a quelqu'un qui lutte contre Dieu? Alors le philosophe peut dire qu'il y a des tentations terribles. Et ces tentations terribles proviennent, des forces du mal. En réalité, c'est le démon. Est-ce que l'existence du démon ne peut pas être montrée philosophiquement? L'existence du mal est montrée philosophiquement. Et que ce mal provienne de quelqu'un, de puissant. Oui. Alors, ce qu'il veut, c'est de ne pas parler de la faute du démon, de l'origine du démon, ça ne peut pas, philosophiquement. Mais l'existence de force du mal, d'attraction du mal, oui, il peut en parler, ça. Il en a expérience. Donc, il a expérience de quelqu'un qui lutte contre Dieu. Il ne sait pas exactement ce que c'est qui. Nous disons que c'est un ange qui a lutté contre Dieu, qui a refusé Dieu. Alors ça, le philosophe ne peut pas dire ça. Mais le philosophe peut affirmer qu'il y a dans le monde des forces terribles de séduction du mal, d'attraction du mal. Et l'existence de certaines forces mauvaises, je crois que cela, on peut le détecter par la simple intelligence. Vous voyez, je parle par exemple des événements qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps en Amérique. Bon, quelqu'un qui ne croit pas peut dire on est en présence de forces qui dépassent la corruption normale de l'intelligence. Il y a donc quelque chose qui anime ces individus, ces personnes. Et comme c'est des forces du mal, ça ne peut provenir que d'une personne. parce que c'est spirituel. C'est pas uniquement matériel. Quand c'est une vengeance, c'est spirituel. Donc, ça relève sans doute d'une puissance démoniaque, d'une puissance plus forte que d'un point de vue purement naturel, et qu'on est en face de forces maléfiques spirituelles. Comment peut-on dire en philosophe qu'il y a quelqu'un qui lutte contre Dieu? Il me semble que c'est au-delà de mon expérience. Dites-moi. J'expérimente et le monde expérimente ses forces du mal. Expérimente qu'il y a quelque chose qui n'est pas uniquement humain. Il y a quelque chose qui dépasse. Il ne peut pas préciser. C'est pour ça qu'il dira les forces du mal. Comme si le mal existait. Les forces du mal dépendent nécessairement d'une personne, humaine ou suprahumaine. Mais je suis persuadé, en tant que chrétien, de dire tout de suite c'est le démon, en tant que homme, pouvons constater que ce sont des forces du mal qui dépassent le point de vue normal de l'homme. Alors on constate qu'il y a des forces qui sont au-dessus du pouvoir humain. On ne peut pas noter que c'est le démon. Mais on peut dire qu'on est en présence de forces d'attaque surhumaines. Lors de la réunion de la session de juillet sur le gouvernement divin, vous avez dit une chose assez surprenante. Tiens, je veux voir. Bien que la création de mon âme soit un acte éminemment personnel, Dieu aime ma réponse dans l'adoration. Dans l'adoration. Se fasse en avec mon ami, en tant qu'il m'a aidé à le découvrir par cette infraction que suscite en moi l'expérience d'une réalité dotée d'une perfection qui m'a attiré, mais limitée. Substantiellement, insatisfaction qui m'amène à jouer l'existence nécessaire d'un être qui est parfait, sans limite. Peut-on dire, d'autre part, là, je crois, surprenante, c'est ça, c'est le rôle de l'amitié. Peut-on dire, d'autre part, que le fait que j'adore, ce qui présuppose que j'ai déjà fait, d'une manière ou d'une autre, la découverte de l'existence de Dieu, implique une rectification de toute ma vie sensible, notamment de mon goût, qui, me permet, qui ne peut plus être incliné que vers une personne qui, loin de faire écran à ma relation avec Dieu, porte, intensifie, approfondit mon acte d'adoration par la qualité. De faire écran à ma relation avec Dieu, porte, intensifie, approfondit mon acte d'adoration par la qualité de sa prière, de sa présence à moi. Ça dépend, c'est pas nécessaire, mais c'est normal. Vous voyez, ça c'est toujours la personne humaine qui s'accomplit plus parfaitement avec un autre, qui réalise avec moi le même chemin que s'il le faisait tout seul. C'est cette loi normale, vous voyez, que je puis, grâce à mon ami, aller plus loin que si j'étais seul. Je crois que cela, tout le monde peut le comprendre. L'amitié, dans tous les sens, mais surtout l'amitié profonde, l'amitié spirituelle, me permet de faire des actes plus parfaits que si j'étais seul. Alors, je constate ça, constatation, que tout le monde, je crois, peut reconnaître et que on reconnaît, ça fait partie de ma nature humaine. L'amitié, c'est vraiment, ça fait vraiment partie de la nature humaine. C'est pour ça que Dieu a créé tout de suite l'homme et la femme. Il y a une raison quand même. On ne dit pas ça chez les anges. On dit que Dieu crée chaque ange personnellement, individuellement. Il n'y a pas de politique angélique. Il n'y a pas une communauté angélique. Les anges sont des monades. Tandis que l'homme, pas du tout. Dieu crée tout de suite l'homme et la femme. Ça, le Saint-Père est très sensible à ça. Dans tout son commentaire sur la Genèse, il insiste beaucoup là-dessus. Au point de vue moral. Alors, indépendamment du Saint-Père, je peux constater que l'homme est fait pour s'allier avec un autre dans l'amitié. Que l'amitié n'est pas quelque chose d'un surcroît absolument surérogatoire. L'amitié est quelque chose de très très important dans l'éducation. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, et qu'on doit, quand on élève des jeunes ou qu'on s'occupe de jeunes, faire que quand ils sont jeunes, vite, ils acquièrent le sens de l'amitié. Parce que quand ils sont jeunes, on peut unir deux jeunes ensemble. C'est-à-dire, on peut aider le choix de l'amitié, ce qui est très important au point de vue éducatif. Quand il grandit, 16 ans, 17 ans, vous ne pouvez plus faire le choix. Tandis que quand ils ont 13, 14 ans, vous pouvez aider. Et donc, faire qu'on trouve un ami sur lequel on peut compter. On sait qu'il ne nous fera pas dévier. Et il nous aidera à aller plus loin. Or, oui bien mon raisonnement, or, la chose la plus difficile pour l'intelligence, c'est de découvrir la nécessité de poser Dieu, de poser un être parfait, premier. Ça devient la chose la plus difficile. Parce qu'on est formé beaucoup plus par les mathématiques que par la métaphysique. Or, par les mathématiques, je ne puis pas prouver l'existence de Dieu. Je peux uniquement prouver les valeurs du cercle. Mais les valeurs, ce n'est pas Dieu. Un homme qui a le sens des valeurs, il n'a pas nécessairement le sens de Dieu. Je fais, moi, ma hiérarchie des valeurs. Et je considère que telle action a plus de valeur que telle autre. Elle qualifie mon action, la valeur. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de réel. C'est mon activité qui est qualifiée de plus noble, de plus parfaite, de plus grande, ayant une valeur pour tous les hommes. Quand je mange ma soupe, je n'ai pas l'impression d'un acte de valeur pour l'humanité. Quand, au contraire, je fais un acte héroïque, difficile à faire, je peux alors dire que cet acte peut servir à toute l'humanité. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'actes qui pourraient servir d'exemple à toute l'humanité. C'est un acte héroïque. Alors, comprenons, puisque l'amitié est là pour m'aider à être plus moi-même, d'aller plus loin, c'est le propre d'un véritable ami. Donc, un véritable ami doit me permettre de poser cet acte qui est l'acte le plus difficile pour moi, au point de vue de l'intelligence, de découvrir qu'il existe un être premier. Et je me mets dans une situation, grâce à l'amitié, dans la situation la plus parfaite humainement, je pose un acte qui est très grand, un acte d'amitié, et je réfléchis avec mon ami sur la grandeur de l'amitié. Je réfléchis donc sur une expérience existentielle que je fais. Et je réfléchis sur la plus parfaite expérience humaine que je fais. Puisque, n'ayant pas découvert Dieu, je ne peux pas encore prendre l'adoration. C'est donc l'amitié, l'acte humain que j'expérimente indépendamment de Dieu, qui est l'acte le plus parfait. C'est en ce sens-là que l'amitié peut être pour moi la situation la plus parfaite pour découvrir l'existence de Dieu. Je crois que vous n'aurez rien à redire ça. Vous n'avez pas d'expérience plus grande, humainement. Puisque l'ami est d'une certaine façon ma fin. C'est pas ma fin dernière, mais c'est une certaine fin. Donc, je touche quelque chose de plus parfait que toutes les autres expériences. Il y a donc pour moi, à partir de l'amitié, découvrir l'existence d'un être premier. Alors ça, on peut permettre ça. On peut réfléchir sur la grandeur de l'amitié qui fait que mon intelligence, quand elle est avec mon ami, peut se livrer entièrement elle-même dans une recherche de la vérité. Ce qu'il y a de plus grand dans l'amitié, c'est que les amis, ensemble, recherchent la vérité. C'est l'action humaine la plus parfaite, comme action humaine, la plus grande. Alors, dans un monde comme le nôtre, où pratiquement la recherche de l'existence de Dieu est très difficile, je dirais, c'est par la voie de l'amitié que je suis le plus certain d'aboutir. Puisque c'est dans l'amour d'amitié que je découvre ce qui est de plus parfait dans l'homme. Je découvre ce qui est le plus parfait dans l'amour de mon ami. Il n'y a pas d'acte dont j'ai l'expérience plus parfaite que ça. Donc, je me situe, si vous voulez, au sommet pour découvrir un être qui n'est plus immédiatement expérimentable. Dieu n'est pas directement expérimenté par moi. Dieu est un Dieu caché. Mais c'est un Dieu caché, mais qui agit toujours. Et qui agit de la manière la plus cachée et la plus forte. Et donc, je ne pourrai le découvrir, du moins, je serai dans la meilleure disposition de découvrir, en me mettant avec mon ami dans cette recherche. À deux, nous demandons s'il n'y a pas dans notre amitié un effet tout à fait particulier de l'amour de Dieu pour moi, de l'existence de Dieu pour moi. Et cet amour d'amitié étant vraiment parfait, et cependant limité, puisque mon amour d'amitié n'empêche pas que mon ami meure. J'ai donc pas pouvoir sur son existence. Alors que j'ai pouvoir par l'amitié sur son cœur. Nous sommes liés et unis dans l'amour. Mais il y a une brisure, une limite au point de vue de l'exister. D'où vient son existence ? D'où vient mon existence ? J'apprécie hautement l'existence et je l'apprécie avant tout dans l'ordre de l'amitié. Mon existence pour mon ami et mon ami pour moi. J'ai le sens le plus parfait de l'existence dans l'amour d'amitié. Le « je suis » de l'ami et mon « je suis » pour mon ami, c'est la plus grande expérience que nous pouvons faire ensemble. Et mon « je suis » prend une force toute spéciale pour mon ami et grâce à mon ami pour moi. Et la sienne pour moi. Et donc, je vois la grandeur de l'existence humaine, la force de l'existence humaine, et je vois sa limite. Il faut donc que cette existence provienne d'un autre. Et cet autre ne peut être qu'un esprit plus parfait, un esprit qui, lui, peut être source de l'exister. Et donc est premier. C'est lui en les mains desquelles l'existence de mon ami dépend et ma propre existence. Je le découvre comme celui qui est l'auteur de mon existence. Donc, voyez que l'adoration faite, tu vois, vous voyez que l'amour d'amitié vécu parfaitement est donc la voie la plus directe pour affirmer l'existence de Dieu. Je crois que cette voie unit Thomas d'Aquin et Augustin. C'est même très cru qu'on ne l'ait pas plus développé. Parce que elle me met au sommet de mon expérience. Et ce qui est au sommet de mon expérience doit pouvoir me permettre de découvrir celui qui est source de mon existence. Parce que je découvre à la fois sa perfection et sa limite. La limite de l'exister m'est parfaitement connue dans la mort de mon ami. La possibilité pour mon ami de mourir. N'ai jamais saisi plus la caducité de l'existence quand j'aime quelqu'un. Autrement, ça nous est égal, ça ne touche pas. Mais quand c'est quelqu'un qu'on aime, avec qui on a vraiment un lien d'amitié, ça nous touche profondément. Et alors, on se pose la question, d'où vient son existence? Puisqu'il ne la tient pas de lui, il ne la tient pas de ses parents. Oui, à ce point de vue-là, ce serait très intéressant de voir qu'au fond, la métaphysique, dans ce qu'elle a d'ultime, rejoint l'éthique dans ce qu'elle a d'ultime.